J'aimerais vous parler aujourd'hui de la sagesse, et notamment de la sagesse incarnée par le roi Salomon. Le grand roi David vient de mourir. Il a désigné pour lui succéder son fils Salomon. Ça ne s'est pas fait sans mal, le roi David ayant eu plus de 50 fils, avec différentes femmes, comme on faisait à l'époque. La passation de pouvoir a été un peu compliquée, certains des fils revendiquant que ce soit pour eux. Mais c'est Salomon qui, finalement, devient roi. Et je vous invite à lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, du verset 1 au verset 15. Salomon s'allia par mariage. Donc je redis, excusez-moi, premier livre des Rois, chapitre 3, du verset 1 au verset 15. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il l'installa dans la cité de David. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1 000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit: « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit: Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit: Puisque c'est là ce que tu demandes, que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que je t'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Donc, voyez l'histoire. Salomon part pour aller offrir à Dieu des sacrifices sur une montagne. Et là, il s'endort et Dieu lui parle et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon va demander « Moi, je me sens bien faible pour gouverner. Ce qu'il me faut, c'est la sagesse. » Et cette demande plaît à Dieu, qui accorde à Salomon la sagesse. On voit que Salomon est soucieux de deux choses quand il fait sa demande à Dieu. Il est soucieux d'être fidèle à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il veut être fidèle à Dieu? Le texte nous dit « car il aimait l'Éternel ». Et en fait, j'ai recherché un peu dans la Bible, et cette mention de quelqu'un qui aime l'Éternel, qui aime Dieu, et bien finalement, elle est très rare. On voit des tas de personnes qui obéissent à Dieu, mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il obéit parce qu'il aime. J'ai trouvé que trois mentions de cette façon de dire dans l'Ancien Testament. On en trouve donc celle-ci, hein, Salomon qui aimait l'Éternel, et on trouve dans deux psaumes, psaume 18 qui dit « Je t'aime Éternel, ma force », et en psaume 116 « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». On en a fait un chant, hein, voilà. Donc, ça c'est son premier souci. Et son deuxième souci, c'est savoir gouverner avec sagesse. Peut-être on pourrait conseiller à Jean Castex de faire la même demande. Donc, lorsque Dieu lui propose de lui demander quelque chose, c'est la sagesse que Salomon va demander à Dieu. Et Dieu va lui répondre en lui donnant cette sagesse, une sagesse qui vaudra à Salomon une grande réputation dans toute l'Antiquité. Et dans les chapitres suivants, après celui que nous avons lu, on peut voir des illustrations de cette sagesse de Dieu, de Salomon, pardon. Alors, j'ai deux remarques qu'on peut faire. Si on regarde exactement ce que dit la traduction, on voit que Salomon demande la sagesse pour discerner le bien et le mal. Un cœur attentif pour discerner le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu de lui indiquer ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous vous souvenez ce qui s'est passé au jardin d'Éden, nos lointains ancêtres, Adam et Ève, ont fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont mangé de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui signifie qu'ils voulaient avoir le droit, vis-à-vis de Dieu, de discerner eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. On voit que Salomon fait le chemin inverse. Dis-moi, toi, Dieu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette demande de Salomon. Et puis, il le dit, le texte nous dit, « Donne-moi un cœur attentif ». Littéralement, un cœur qui écoute. Si on regarde les mots exacts dans l'hébreu, c'est un cœur qui écoute. Et je trouve que cette expression, elle est jolie, elle est belle. Un cœur qui va écouter la volonté de Dieu et qui veut la suivre. La deuxième remarque, c'est que Dieu pose une condition. Je ne sais pas si vous avez vu. Il lui dit, eh ben, tu m'as demandé la sagesse, je vais te la donner. Et puis je te donne en plus la richesse et la gloire. Mais si tu es fidèle, si tu suis mes commandements, alors je te donnerai en plus une longue vie. On voit que Dieu connaît les hommes. Et la suite de l'histoire de Salomon nous montrera que Dieu avait bien raison. Parce que Salomon, cet homme tellement sage, il ne va pas rester sage toute sa vie. Mais n'anticipons pas, hein. Comme disait Mathusalem quand on lui parlait de sa retraite future, n'anticipons pas, il faut tirer la conséquence et chaque jour se soumettre à Dieu. Ça, on verra un petit peu plus tard. Alors, la sagesse, qu'est-ce que c'est ? Parce que finalement, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que la sagesse. Eh bien, elle a un point de départ, déjà, la sagesse. Et on trouve ça dans le psaume 110. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte, le respect, on pourrait dire, de Dieu. Et le psaume continue en disant, « Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. » Dans une autre traduction, dans la Bible en français courant, ce psaume 111 est traduit comme ceci, « Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. » Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. Donc c'est un point de départ, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu et de s'y soumettre. C'est ce qu'a voulu faire Salomon. Et puis, une fois ceci acquis, après il y a une progression possible. Le proverbe 4, chapitre 4, verset 7, nous dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et une fois que tu l'as acquis, acquiers l'intelligence. » Ça semble bizarre un peu comme façon de parler. Mais c'est encore l'idée que ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Mais c'est quelque chose qui a un point de départ et qui ensuite, toute sa vie, va se creuser. Qu'il faut se soumettre à Dieu, non pas une fois, et puis après on n'en parle plus, mais chaque jour se re-soumettre à Dieu. Alors il y a un texte intéressant dans vos Bibles, mais vous le lirez chez vous, c'est un peu long, c'est tout le chapitre 8 des Proverbes. Voilà, on ne va pas le lire ici parce que c'est un petit peu long, qui nous parle de la sagesse, un peu comme une personne, elle est personnifiée dans ce chapitre qui est assez poétique, hein, où il nous est dit que c'est une personne qui crie dans les rues et qui appelle les gens, connaissez-moi, enfin voilà. Qui nous dit aussi que la sagesse était avec Dieu lorsqu'il a créé toute chose, comme un nourrisson auprès de lui. Et quand on lit ce texte, on ne peut pas s'empêcher de penser au Fils de Dieu qui incarne la sagesse. Alors, appliquons ceci à nous-mêmes. Salomon, c'est bien beau, mais c'est un petit peu ancien quand même. Hein ? Voyons comment ceci peut nous concerner. D'autant plus que, je ne sais pas vous, hein, mais moi, jamais Dieu ne m'est apparu en songe pour me dire demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a fait cette expérience-là ? Non ? Bon. Donc, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne nous donne rien. Mais il faut quand même que nous allions chercher cette sagesse. Et donc, où pouvons-nous la trouver ? L'épître de Jacques nous dit, chapitre 1er, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, » peut-être c'est pas votre cas, hein, donc si c'est pas votre cas, vous écoutez pas. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme, ça doit être valable pour les femmes aussi, ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. La sagesse, cela se demande. Et ça, c'est la prière. Et ne doutons pas de la volonté de Dieu de nous la donner si nous la demandons. Si nous sommes fidèles, si nous sommes constants dans cette demande, et si nous avons l'intention non seulement de lui demander la sagesse, mais de la suivre. Dieu connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Si nous demandons la sagesse avec l'idée bien fermement arrêtée de continuer à en faire qu'à notre tête, ce n'est pas de la sagesse que nous obtiendrons. Donc la prière. Ensuite, la lecture de la parole, la lecture de la Bible. Paul écrit à Timothée, c'est 2e épître aux Timothée, chapitre 3, verset 15, « Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » La lecture de la Bible peut nous donner la sagesse. La sagesse, ça se trouve dans la Bible. La Bible tout entière nous instruit dans cette recherche de sagesse. Un peu partout dans notre Bible. Et notamment dans ce qu'on a appelé les écrits de sagesse. Les écrits de sagesse dans l'Ancien Testament. Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste qui souvent nous déroute. Et puis dans les paroles de Jésus, dans les évangiles. Relisons les chapitres 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne. Voilà une sagesse. Et puis les écrits des apôtres, de Paul notamment. Et puisqu'on parlait des évangiles, une source de sagesse, c'est l'imitation de notre Seigneur. C'est de suivre l'exemple de Jésus. C'est de regarder comment il agissait. Comment il parlait aux grands, comment il parlait aux humbles, comment il parlait aux réprouvés, à ceux que personne n'aimait, aux lépreux, aux samaritains, aux femmes. Voilà des exemples de sagesse. L'apôtre Jean va écrire dans sa première épître, chapitre 5, verset 20, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. » Jésus est le modèle parfait de la sagesse de Dieu, une sagesse incarnée. Un modèle à suivre. Et puis, allons encore un petit peu plus loin, il y a l'aide du Saint-Esprit. Cette personne divine que le Fils, après l'ascension, a envoyé sur ceux qui croient. Toujours l'apôtre Jean écrit dans la première épître, « Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint, recouvert, par le Christ demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il vous enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement, tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Alors, c'est comme un puzzle. Une pièce toute seule, là, elle ne vaut rien. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire un puzzle avec une pièce. Hein? C'est pas très beau, hein? C'est un peu limité. Difficile de faire la part entre la prière, la lecture de la Bible, l'exemple de Jésus, l'aide du Saint-Esprit, tout ça, c'est s'imbrique. Et puis ce qui s'imbrique aussi, c'est l'édification mutuelle, c'est l'aide mutuelle. L'Église a été inventée pour cela. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens dans sa première épître, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. » Les Thessaloniciens le faisaient déjà. Mais Paul dit, « Continuez, c'est bien, il les encourage. » Et il écrit aussi aux Colossiens, Colossiens 3,16, « Que la parole du Christ habite en vous, avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. » La vie de l'Église devrait aussi nous aider à grandir ensemble. La sagesse, ça devrait se voir. Si vous me dites, ou si je vous dis, on va plutôt dire dans ce sens-là, moi je suis sage, j'ai vraiment obtenu de Dieu la sagesse supérieure, et que ma vie démontre ça, mais vous allez me dire, Jean-Pierre, soit tu es un menteur, soit tu es fou. Soit tu veux nous faire croire, soit c'est toi qui es dans l'illusion. Et de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. L'épître de Jacques nous dit au chapitre 3, « Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite avec douceur et sagesse. » La sagesse de Dieu, cela doit se voir si nous la possédons, dans notre façon de nous comporter, de parler, d'avoir des liens les uns avec les autres. Et puis un peu plus loin, dans la même épître, Jacques précise qu'est-ce que c'est que cette sagesse. La sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits. Sans parti pris, sans hypocrisie. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que la sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on va capturer une bonne fois. Et ensuite, on va pouvoir vivre sur ce trésor toute sa vie. Le psaume 119 parle à trois reprises de méditer les préceptes, de méditer les commandements de Dieu, de méditer les paroles de Dieu. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque nous lisons plus loin la vie de Salomon, on voit qu'il a un très très beau début et une fin misérable. Au point que Dieu va sanctionner Salomon en lui disant, tu vois, la fin de ta vie, là, tu as entraîné le peuple dans tellement mauvaise voie que ton royaume, à partir de, tu le verras pas, mais à partir de ton fils, il va être divisé. Il y aura des tribus d'un côté, des tribus de l'autre. Dieu montre ainsi son insatisfaction. Il n'est donc pas resté, Salomon, dans cette grande sagesse, il n'a pas su garder. Et quand on lit un petit peu le pourquoi des choses, une des choses qui a entraîné Salomon hors de la sagesse, c'est son amour déraisonnable pour les femmes. Mais bon, chacun a ses points d'achoppement. Pensez donc, 300 femmes et 700 concubines. Ça en fait des soucis, ça, hein? Paul pouvait dire à Timothée, on trouve ça dans la deuxième épître à Timothée, vous savez que c'est très probablement la dernière chose, que la dernière épître que Paul a écrite, donc c'est un petit peu son testament spirituel. Il lui dit, c'est une phrase bizarre, « Comprends ce que je te dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. » Même si Dieu nous donne l'intelligence, nous devons faire l'effort de comprendre. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, Dieu va te donner l'intelligence, mais toi, fais un effort. Ça ne va pas te tomber comme ça, tout cuit. Comprends ce que je te dis. Même si nous avons obtenu de la sagesse par la prière, la lecture de la Bible, l'exemple de Jésus, l'aide du Saint-Esprit, l'imitation de chrétiens sages que nous avons pu connaître, nous devons faire l'effort de la rechercher, de la comprendre, de l'assimiler et de lui obéir. Et ça pas une fois dans notre vie, mais durant toute notre vie. Devant chaque choix à faire. Seigneur, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Bon, des fois, un bon GPS, ça aide aussi, hein, pour ne pas se perdre. Mais dans des choix plus compliqués, des choix de vie, les GPS, ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que dans telle situation, tu dirais oui ou tu dirais non? Devant chaque conflit, Seigneur, comment se fait-il que ce frère ou cette sœur, je ne puisse pas m'entendre avec lui? Que ferais-tu à ma place? Qu'est-ce que ta sagesse me dit? Chaque fois que j'ai des sentiments violents qui peuvent m'agiter, la peur, l'angoisse, la jalousie, le désir, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Quelle est la sagesse qui vient de toi? Seigneur, je voudrais me présenter devant toi. Je voudrais dire devant mes frères et sœurs que ce que j'ai dit ce matin, c'est d'abord à moi que je l'ai dit. C'est pas pour faire la leçon comme si moi j'étais arrivé à quelque chose et pas les autres. Nous sommes tous concernés par une recherche continue de faire ta volonté et donc de la connaître. Aide-nous, Seigneur, à chaque étape de notre vie, à nous imprégner de ton intelligence, de ta sagesse. Et pour cela, tu nous as donné des moyens de connaître. Et donne-nous de suivre ta volonté. Sois avec nous, Seigneur, sois avec ceux qui nous voient ou nous écoutent sur leur ordinateur, et que tous ensemble nous puissions grandir en sagesse, grandir dans la ressemblance de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, pour cela. Amen.